Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Il est là, Blanchard. Rappelez-vous Gérard Blanchard, 1981, les grottes de Rocamadour. Nous sommes pas loin aujourd'hui de Rocamadour, ce magnifique village médiéval perché dans les rochers au-dessus de la vallée de l'Alzou. Et c'est là que s'achèvera tout à l'heure la 20e étape de ce Tour de France. Étape contre la montre, c'est le dernier grand rendez-vous de ce Tour de France 2022. Alors certes, les enjeux sont un peu moindres qu'ils ne l'étaient l'année dernière ou il y a deux ans, mais on va sans doute assister à un magnifique spectacle, car le parcours de cette 20e étape est tout simplement magnifique. On va donc vivre ce dernier grand moment avec toute l'équipe de l'Intégral Tour. On accueille à nouveau, comme il vient de temps en temps nous faire un petit coucou comme ça, il se fait un petit rallye de 700 km à chaque fois, on la remercie, Christophe Moreau. Salut Christophe.
Ouais, salut, bonjour.
Comment ça va?
Magnifiquement bien.
Bon, t'es en pleine forme. Tu t'es fait combien de kilomètres pour venir aujourd'hui dans l'Intégral?
J'étais pas très loin, j'étais du côté de Goujonac.
Ah oui, mais bon, avant de venir à Goujonac, t'étais en Suisse quand même.
Ouais, j'ai fait à peu près 770 km.
Ben voilà, quand on aime, on ne compte pas.
N'est-ce pas?
Cyril Guimard, lui, il compte toujours. C'est comme ça, c'est à ça qu'on le reconnaît. Bonjour Mondruyen.
Oui, bonjour à tous. Bienvenue Christophe. On sait que tu as passé une très très bonne soirée hier soir. J'aurais aimé être avec vous, mais Christophe a refusé en tant que chef de notre délégation. Il voulait que je sois en pleine forme ce matin.
Ah, il me met ça sur le dos. Il n'avait pas envie, le druide, de faire 60 km dans les petites routes du Lot. C'est vrai que voilà, toi tu n'as pas hésité.
Ah, écoutez, du côté de Goujonac, à la poule au pot, on mange royalement et on a été attendu par Laurent Roux et toute sa famille reçue comme des princes, avec un bel hommage pour son papa. En tout cas, un joli clin d'œil et un menu du Sud-Ouest gargantuesque.
Ah, mais t'as bien raison de venir sur le Tour de France. Hein,
c'était bon.
C'est magnifique. Jérôme Coppel, bonjour Jérôme.
Salut Christophe, salut à tous.
Tu as fait le métier toi hier soir?
À la veille de chrono, toujours. Hein. Moi, je me suis couché tôt, j'ai repéré le parcours et je suis prêt pour aujourd'hui.
Quel pipeau celui-là. Donnez-moi un petit coup de pipeau là.
Je reste sur une victoire, moi je suis en pleine forme.
Ah, c'est vrai que.
Voilà. Ouais, je le rappelle quand même.
Ouais, bah,
j'ai l'impression que tu l'as déjà oublié. Non.
Attends, je t'ai fait mousser hier, tu rigoles ou quoi?
Mais continue.
Bah, non, mais on va voir.
Je suis toujours le tenant du titre pour l'instant.
Ah, bah là, je pense que tu seras à moins évidemment que Pierre-Yves Leroux n'arrive avec un pari incroyable à renverser la situation. Lui qui est à moins combien? Moins 1000 euros, c'est ça, depuis le début du tour?
Moquez-vous. Vous verrez. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses.
Ah oui, je crois qu'on va en compter un paquet, mais en négatif. Ça va, Pierre-Yves?
Très bien. Je confirme que Jérôme et Cyril ont été sérieux hier soir. Surtout parce que quand on est arrivé à l'hôtel et que Cyril a demandé si on pouvait prendre un Jack Daniel's, on lui a dit chut, non, monsieur, il y a des gens qui dorment.
Ah, il était en pleine forme, le druide, à 11h30.
Grande forme.
Je vous ai pas accompagné hier soir parce que moi j'étais reçu aussi par mon ami Philippe Louvieux, ancien champion de France de cyclisme, qui habite dans la région. Il est à Saint-Céré à côté et on a aussi été très bien reçu. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la fin du tour. On répond à quelques invitations aux copains qu'on a croisés seulement sur la route.
C'était
du tour.
Ça, la petite sieste tout à l'heure, Christophe?
Ah oui, une petite sieste quand même. Bienvenue.
Avant qu'on préparait l'étape.
Oui, c'est ça, pendant que vous étiez allé chercher des sandwichs. Mais moi, je fais le métier comme Cyril, pas de sandwich à midi. On tient le choc jusqu'au soir pour bouffer du foie gras. 14h10, Arnaud Souk, lui aussi, est avec nous. Il est sur la moto avec Marco. Ils sont sur le parcours de ce contre-la-montre. Bonjour Arnaud.
Salut les amis. Alors je tiens à dire que personne n'a fait le métier hier soir. Il y a eu du vin à table, il y a eu de la viande, voilà, et c'était pas de la viande blanche. C'était très bon. D'ailleurs, on a commencé à prendre la route avec Marco, effectivement, sur ce contre-la-montre, sur ces 40 km. On a fait les 5 premiers kilomètres. Confirmation, et Jérôme pourra peut-être en parler dans quelques instants, que c'est un chrono assez technique, un chrono de spécialiste à la relance tout le temps. Voilà, il va falloir jouer du braquet, comme on dit, et puis ça tourne beaucoup, notamment dans le début du parcours. Voilà, il y a beaucoup d'enfilades de virages, donc les spécialistes vont pouvoir s'en donner à cœur joie dans quelques instants.
Très bien, tu es parti déjà, tu es sur la route, tu as suivi, je crois, Florian Sénéchal, le champion de France.
Absolument, et je suis là actuellement derrière Filippo Ganna, le double champion du monde de la discipline, qui va pouvoir nous donner quelques petites indications sur ce qu'il convient de faire pour être dans les temps des meilleurs aujourd'hui sur ce parcours.
Très bien, Filippo Ganna, donc champion du monde, qui a revêtu le maillot arc-en-ciel. Il a le droit de le porter uniquement sur les étapes chronométrées. Filippo Ganna qui, après la reconnaissance, a dit cette étape, c'est pour Van Aert. Comme ça, au moins, il n'y a pas de suspense.
Ouais. Sauf que j'ai parié sauvé.
Ah bah oui, mais tu savais pas ce qu'il avait dit. T'aurais dû attendre aujourd'hui, comme Arnaud. Arnaud, il parie toujours le matin, lui. Hein, c'est plus facile. On verra tout à l'heure sur lesquels coureurs.
Vous êtes de mauvaise foi, j'ai dit devant la France entière hier que je pariais Van Aert aujourd'hui.
Ah bon? Tu es sûr? Kevin Morand, il est là aussi. Il est à la HF aujourd'hui. Il attend les réactions des coureurs lorsqu'ils en ont terminé avec ce chrono. Kevin, tu es avec qui en ce moment?
On est très très dur, très exigeant, la route n'en rend pas, c'est toujours un peu en prise. Après il y a des parties où les spécialistes ils peuvent bien envoyer. Et ouais, avec le final très dur, c'est un parcours ouais, très dur.
La dernière vraie étape de ce Tour de France, quel bilan tu tires de ce tour?
Je suis très fier d'être arrivé jusque là. Ça n'a pas été facile, j'ai été malade au début de tour. Après j'ai réussi à faire des petites places sympas sur les sprints. Donc demain il y a encore une opportunité. Donc je vais essayer de tout faire pour finir en beauté. Bah, en tant que Parisien de naissance, forcément ça me fait beaucoup rêver. Je rêve depuis que je suis petit, j'aimerais bien faire quelque chose de beau.
Voilà, Jérémy Lecros, le coureur de la formation BNB Hotel, qui vient d'en terminer, lui qui s'est lancé tout à l'heure à 13h15. On a son temps, Pierre-Yves ?
On doit l'avoir, oui, tout à fait, on peut le trouver, en tout cas, c'est ça que tu me demandes.
Oui, là, t'as intérêt à être sur le coup, hein, parce que les temps, ça va tomber de tous les côtés. Il y a trois points intermédiaires, plus l'arrivée finale, il y en a partout des chronos.
Eh bien, écoute, il a mis 4 minutes 36 de plus que Michael Bierg. Il avait mis 50-22, donc tu vois, ça fait 50-58 pour Jérémy Lecros, le Parisien.
Ok, voilà donc pour la première réaction. Kevin qui va nous mettre tous les coureurs qui vont arriver les uns après les autres dans cette étape. C'est aussi ça l'avantage du contre-la-montre, c'est qu'on peut entendre quasiment tous les coureurs du Tour de France puisqu'ils s'arrêtent une fois la ligne d'arrivée franchie. Un petit mot sur ce chrono, donc tu l'as reconnu Jérôme, enfin tu l'as reconnu de loin en hélicoptère sans doute, parce que nous étions sur le parcours avec Pierre-Yves.
Oui, mais apparemment il le maîtrise parfaitement, enfin on va voir.
Bien sûr, on le maîtrise parfaitement. Non, c'est un chrono qu'on est toujours en prise, hein, ce qu'on appelle toujours en prise, le goudron est pas très bon, c'est pas un bon revêtement, faut toujours pousser beaucoup d'enfilade, Arnaud l'a dit, et surtout les 10 derniers kilomètres vraiment très techniques. Alors là on a deux bosses dont la dernière qui fait 1,5 km à 8% de moyenne juste avant l'arrivée finale, avec vraiment une courbe très très technique où les coureurs vont repartir à l'arrêt quasiment. Voilà, c'est vraiment dans les 10 derniers kilomètres qu'on va pouvoir faire que les favoris vont pouvoir faire la différence. Faudra bien gérer l'ensemble de ce chrono, 40 km c'est très long, mais vraiment dans les 10 derniers kilomètres il y aura des différences à faire.
Alors quel est le meilleur rouleur de l'équipe? On a quand même dans notre studio un ancien champion de France du contre-la-montre et de l'autre côté un vainqueur d'étape chronométré sur le Tour de France, Christophe. Hein. C'était un prologue, c'est pas les mêmes distances évidemment. Quelle est la différence justement? Un prologue, on y va à bloc dès le début, on ne s'arrête pas, on respire quasiment pas. Là, 40 km, il faut prendre le temps de respirer quand même de temps en temps.
Hein. Oui, bien sûr, il faut le temps de respirer, il faut aussi pouvoir se lancer gentiment, lancer la machine, accélérer et être aussi dans la gestion aussi de l'hydratation. Il faut pouvoir un petit peu aménager le parcours, les efforts et toujours monter en puissance et garder un bon rythme et pas un faux rythme. Le problème d'un gros, un long contre-la-montre, c'est qu'on a tendance des fois à tomber sur un rythme de confort, un faux rythme et de croire qu'on est bien et le temps et les temps intermédiaires se font catastrophiques. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est pas explosif, mais par contre il faut être très très rigoureux tout au long du parcours et surtout découper le parcours comme il se doit.
Si on va écouter Anthony Turgis qui est avec Kevin Morand qui vient d'en terminer lui aussi à son tour dans ce chrono. Anthony Turgis.
Si, moi j'aime beaucoup le chrono. Après voilà, quand il faut le travailler, hein, on peut bien aimer ça et pas sortir forcément des résultats. Après voilà, c'est un chrono pas très sinueux mais avec beaucoup de courbes, donc quand on connaît pas trop on appréhende. Donc voilà, pour ma part, vu que je partais trop ce matin, début d'après-midi, j'ai préféré dormir que de reconnaître le circuit. Donc voilà, les pure spécialistes vont vraiment avoir un cran de différence par rapport à nous.
Ouais, le parcours, c'est l'impression que ça donne, en tout cas sur les premières images.
C'est ça, effectivement, on est en prise longtemps, il y a plus de descente. Les descentes se font très vite, donc peu de temps d'accu. Il n'y a pas de relance. à part vraiment où on peut se mettre en danseuse dans le haut de la première montée et puis la, dans la deuxième. Sinon c'est vraiment 40 km en position, donc c'est sûr ça va faire des moyennes très vite.
Anthony, tu vas pouvoir rallier Paris après tes petites chutes, tes mésaventures du début de tour. C'est une satisfaction pour toi ?
Oui, c'est sûr que j'aurais préféré faire mieux. Après, ce que j'ai eu au départ, c'était pas évident pour moi. J'ai subi beaucoup pendant le Tour de France. J'espère que ça va payer pour plus tard, parce que bon, faire un Tour de France en souffrance, c'est c'est pas très sympa pour moi, quoi.
Merci Anthony.
Anthony Turgis, donc de la formation Total Energy, qui en a terminé et qui va terminer loin dans ce Tour de France. Lui qui était venu avec des ambitions d'aller viser des victoires d'étape, mais c'est vrai, on le rappelle, il a chuté dès la deuxième étape, hein, Pierre-Yves, sur le pont du Grand Belt, qui n'avait pas fait beaucoup de dégâts, sauf pour Anthony Turgis. Hein.
Ben oui, on revoit cette image d'Anthony Turgis s'envolant quasiment sur le Grand Belt, alors qu'on attendait du vent et des bordures. Et bien lui a souffert sur cette étape et effectivement, au classement général, eh bien, il se retrouve assez loin. Il n'a jamais pu rentrer véritablement dans ce Tour de France. Anthony Turgis qui est parti là dans les dernières positions, enfin dans les premières positions, puisque vous le savez, c'est inversé. Il est 133e au classement avec 5h13 de retard sur le premier.
Pas digne de son rang. Hein. C'est l'un des meilleurs coureurs français, Jérôme Anthony Turgis. Mais quand, comme il nous l'expliquait, quand on part en souffrance dans ce Tour de France, c'est compliqué de se refaire la cerise.
Oui, c'est vraiment un super coureur, Anthony, surtout sur les classiques. En début de saison, on le voit beaucoup, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, etc. Mais là, quand vous chutez comme ça dès la deuxième ou troisième étape, c'est impossible de se refaire, surtout si vous avez des blessures entre guillemets sérieuses. Vous n'arrivez pas, la fatigue s'accumule, et vous prenez le tour dans le mauvais sens, c'est très difficile de se refaire. C'est déjà très bien qu'il ait pu s'accrocher et finir le tour. C'est vrai que le lendemain et deux jours après sa chute, on était un peu inquiet de le voir distancé dans les premiers à chaque étape. Finalement, il s'est accroché. Voilà, il n'aura pas fait le Tour de France qu'il aurait voulu, ni le Tour de France qu'il mérite, mais au moins il l'aura terminé. Et faire une course de 3 semaines, ça permet aussi de préparer la fin de saison au mieux.
Et l'équipe Total Energy aura aussi fait un Tour de France difficile, hein, Christophe. Elle comptait sur Peter Sagan, son leader, qui vient d'en terminer lui aussi, mais très loin. Bon, il ne visait pas évidemment une victoire d'étape aujourd'hui dans le chrono. Anthony qui chute. Voilà, ça a été un tour de difficile pour l'équipe de Jean-René Bernodeau.
Ah, c'est clair, avec cette recrue de choix comme Peter Sagan, ils attendaient beaucoup sur les arrivées au sprint. Il a fait moyen, il a été dans les deux, trois premiers dans les sprints, jamais transcendant. Et puis derrière, quelques petits faits de course malchanceux de par ailleurs de ses coéquipiers, et ça n'a pas été une spirale ascendante qui mène à la victoire. Compliqué, un peu douloureuse, et puis une entrée en matière avec Sagan et Total Direct Energy, toujours un petit peu en deçà des espérances de Jean-René Bernodeau. Mais on peut compter sur un rebond de Sagan plus tard, mais pour ce tour, en tout cas, c'est râpé.
Vous y croyez encore un rebond de Peter Sagan, Cyril ? On l'a vu quand même plus à l'aise, hein, durant ce Tour de France. Bon, il a malheureusement pour lui eu que des places d'honneur, mais pas de victoire d'étape. Il n'a jamais pu vraiment lutter pour la victoire d'étape. Est-ce que tu penses encore que Peter Sagan a des choses à faire et des choses à prouver dans le vélo, et qu'il pourra un jour bien aligner encore de nouvelles victoires comme il l'a fait pendant des années ?
Des choses à prouver,
plus grand chose à prouver. Non, il a tout prouvé,
si,
sur le vélo.
Oui, il a déjà tout prouvé, mais il a encore du potentiel. Je crois qu'il faut mettre à son crédit quand même le fait qu'il a eu quelques soucis de santé, voire des gros soucis de santé depuis le début de saison. Et lorsqu'on a ce type de problème, c'est sûr qu'il ne pouvait pas dire « je ne participe pas au Tour de France », même s'il savait qu'il n'était pas à 100%. Quand on n'est pas à 100% sur le Tour, eh bien, on fait le Tour que Peter a fait. Il a essayé de se battre dans les sprints, il est venu, il a frotté avec l'expérience et l'audace qu'il peut avoir. Je crois que la meilleure place qu'il doit faire, c'est quatrième. Mais c'est vrai qu'il y avait 3 ou 4 sprinters qui vont plus vite que lui. Hier, il y croyait. Et puis,
oui, final, parce que c'était un parcours qui lui convenait. Avec
normalement, une bosse comme ça à l'arrivée au sprint, oui, il peut faire tilt, ou il faisait tilt auparavant. Aujourd'hui, c'est allé un petit peu trop vite dans le final, puisque on avait 3 coureurs à l'avant avec Alexis Goujard, qu'on fait péter les équipiers. y compris les équipiers de Peter Sagan. Et puis, ben, y a un homme qui est parti à 1,5 km de l'arrivée et qui a faussé compagnie au sprinter pour l'emporter en solitaire.
Il a effectivement fait deux fois quatrième sur ce Tour de France. Et on pensait qu'il allait revenir au bon moment puisqu'il s'était imposé sur le Tour de Suisse de justesse devant Ryan Cocard.
Avec beaucoup d'autorité d'ailleurs. Exactement. Et là, c'était le vrai Sagan qui fermait la porte à droite, fermait la porte à gauche, donnait le coup d'épaule où il fallait.
Il avait mis fin à plus d'un an sans victoire, puisque la victoire précédente remontait au Giro 2021.
On espérait beaucoup en début de saison, parce que l'arrivée de Sagan a aussi coïncidé avec l'arrivée des vélos, hein, puisque Specialized sponsorise Sagan, et donc est un partenaire de l'équipe Total Energy. On disait en début de saison que ça allait vraiment leur permettre de faire un gap. Jérôme, toi qui es toujours intéressé justement par les performances des vélos, ça n'a pas donné pour l'instant les résultats escomptés.
Bon, en tout cas, le retour des coureurs, c'est que ça leur a quand même changé la vie, hein. Ces vélos, c'est... Alors, est-ce que c'est, je vois Cyril déjà faire plein de grands gestes, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est vraiment quantifiable sur le terrain, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais moi c'est sûr, je suis persuadé que les vélos ont une incidence sur les performances des coureurs, bien sûr, que ça soit mental ou vraiment chiffrable sur le terrain. En tout cas, c'est peut-être les meilleures machines qui existent sur le marché. Donc en tout cas, s'ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas d'excuses avec le matériel.
Alors, l'importance et la prépondérance de la machine, je crois que vous en discutiez hier soir dans la voiture. Tiens, on va écouter ce que ça donnait, parce que le débrief se poursuit à toute heure du jour et de la nuit sur RMC. Petite discussion donc hier soir avec Cyril Guimard et Jérôme Coppel. Écoutez ce que ça donne.
Non mais attends, la traînée aérodynamique.
Non mais tout ça, ils ont étudié. Je veux dire, je peux pas croire qu'un vélo de maintenant, il est moins performant qu'un vélo d'il y a 30 ans.
Non mais là on parle de l'aérodynamisme.
Oui, de l'aéro pur.
Derrière tes genoux, tu peux rien calculer.
Ok.
Puisque mais tu as 200... Pas... Attends, écoute bien. Ta jambe, elle passe 200 fois au même niveau devant.
Ouais.
Mais t'es à 100 tours minute.
Mais tu pouvais pas la calculer avec Kino non plus.
Non, parce que les turbulences, la grosseur de ta cuisse, de ton genou, de ton mollet, tu ne sais pas comment ça se passe au-delà de tes deux genoux, de tes deux rotules.
Non, mais ça, je suis d'accord avec toi.
J'en peux plus, franchement. À 11h30 dans la voiture, on peut pas souffler, on peut pas couper un peu.
Non, mais nous, on est dans notre tour, il n'y a pas d'heure pour travailler.
Pas possible.
Il n'y a pas d'heure pour travailler, c'est ça ton problème. Toi, tu veux débrancher, Pierre-Yves, c'est
ça. Tu vois, Christophe, ce que je te disais, qu'ils avaient été sérieux hier soir. Pendant une heure, on a parlé chrono hier. Enfin, pas moi, hein, j'ai rien dit du tout. Moi, j'ai écouté.
Essayer de dormir, brinque balai à l'arrière.
Il y a ceux qui ont la passion et la passion ne les quitte pas.
Et ceux qui sont fatigués en fin de tour.
Et vous, dont c'est le métier de remplir l'antenne, mais vous ne vous intéressez pas à ce qu'il y a de plus profond, de plus précis, de plus sensible. Alors, la preuve, regardez, qu'est-ce qu'a dit Christophe ?
Je ne sais pas.
Il parle de la capacité de performance du vélo. Un vélo, jusqu'à preuve du contraire...
Ça n'avance pas tout seul. Bien sûr.
C'est bien l'homme qui le fait avancer.
Bien sûr.
Et là, on parle de la performance du vélo. Depuis quand le vélo, il roule tout seul ? Ah oui, mais qu'il y a des moteurs.
Oui, mais quand même, de ton temps, c'était rond, maintenant c'est ovale et tout ça. J'ai retenu que ça à dire.
Alors, sinon, moi aussi, j'ai une autre petite vidéo qu'on a faite, mais ça, c'était avant-hier soir. On débriefait le tour de Thibaut Pinot. Je sais pas si on peut l'écouter, celle-là. Non, je suis pas sûr. Hein, on va pas l'écouter, celle-là.
Non, c'est pas nécessaire. Non,
surtout que là, c'était après l'apéro et Cyril était vraiment en pleine forme. Je peux vous le dire, c'était énorme.
Quelle réputation je vais avoir quand je pense que ma femme écoute. Ouais, je pense qu'elle va me faire interner quand je vais arriver lundi midi.
Elle aurait pas tort, d'ailleurs.
Cure de désintoxication de Christophe Cessieux
et
de Pierre-Yves Leroux. Ça va vachement faire du bien.
14h25. Et tiens, on va se quitter quelques instants. On va juste faire un petit tour à la moto quand même derrière Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre, derrière lequel se trouve la moto RMC avec Marco et Arnaud.
Et il était très très bien, Filippo Ganna, au premier intermédiaire, puisqu'il était passé en avance sur le meilleur temps qui, je ne m'abuse, était détenu alors par Mikkel Bjerg. Donc superbe première partie pour l'instant de chrono de Filippo Ganna, qui ne commet pas beaucoup d'erreurs. Et dans ce parcours, on le répète, très technique. Et tu l'as dit, Jérôme, et c'est quand même très important, le revêtement qui ne rend pas bien du tout. Et ça, c'est constant, c'est tout sauf un billard aujourd'hui, la route de ce contre-la-montre entre la Capelle Marival et Rocamadour.
Merci Arnaud, premier temps de référence. référence donc au chrono numéro 1 à Enac, donc Ghana qui est en tête en 12 minutes 23 avec combien
6 secondes d'avance sur Cataneo et 14 sur Bjerg. Anthony Pérez s'élance à l'instant pour la Cofidis.
14h26 sur RMC, l'Intégral Tour revient dans un instant, à tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Et nous vivons aujourd'hui la 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France 2022. Qui remportera l'étape? Qui sera toujours en jaune ce soir? A priori, là, il n'y a pas beaucoup de suspense, puisqu'on vous le rappelle, il y a toujours 3 minutes 26 d'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce devait être le grand moment, là où peut-être le Tour de France aurait dû se jouer, Cyril. Et puis, il y a eu ces deux moments difficiles pour Tadej Pogacar, qui aujourd'hui n'est plus en mesure d'aller chercher la victoire. 3 minutes 26, même un Ghana, même un Van Aert ne pourrait pas reprendre autant de temps à Jonas Vingegaard.
Non, 3 minutes 22, où là il fera vraiment un drame, et puis on ne souhaite pas qu'il y ait un drame aujourd'hui dans cette étape contre la montre à 24 heures de l'arrivée à Paris. Je pense que là les dés sont jetés. Pogacar ne peut pas reprendre 3-20, je dis sauf un événement dramatique qu'on ne souhaite pas, bien évidemment.
Alors, est-ce qu'il y a des enjeux outre le maillot jaune, Pierre-Yves? Il n'y en a pas beaucoup quand même aujourd'hui, parce que les places sont assez espacées entre les coureurs, et il y a très peu de coureurs qui pourront perdre leur place, notamment dans le top 10, hein.
Oui, parce qu'il y a quand même de gros gros écarts. On disait tout à l'heure par exemple que Anthony Turgis était à plus de 5 heures du vainqueur Jonas Vingegaard, donc il faut classer 140 coureurs à peu près en 6 heures. Ça laisse des écarts très importants, puisque le dernier au classement est Caleb Ewan, on le rappelle, qui était parti tout à l'heure en premier pour ouvrir la route, lui est encore plus loin à 5h33. Donc finalement l'intérêt majeur, c'est dans le top 10, on en a parlé hier, entre trois hommes: Alexandre Vlasov, Luis Mentis et Nairo Quintana, qui eux se tiennent en 35 secondes. Et donc là, il y a trois places à jouer dans le top 10 d'un Tour de France. C'est toujours intéressant quand même. Et on peut imaginer qu'il va y avoir un petit peu bagarre quand même entre ces trois-là. Pour les autres, il y a souvent 2 minutes d'écart entre celui qui est devant vous, celui qui est derrière. Et puis à un moment, perdre une place ou en gagner une, ça n'a plus trop d'importance. Donc on va viser la victoire d'étape et puis donc le top 10 qui peut bouger un petit peu tout à l'heure.
David Gaudu, Christophe, est assuré de terminer 4e de ce Tour de France. Il est ce matin pointé avec 11 minutes 5 de retard sur Vingegaard. Il a 2 minutes 30 d'avance sur Quintana, un peu plus sur Mentis et Vlasov. A priori, ça devrait le faire aussi pour David.
Oui, et puis David sort de très bons chronos ces derniers temps. Il a réussi à progresser aussi dans leur groupe de performance, notamment avec Frédéric Grappe. Et c'est vrai qu'au niveau positionnement, au niveau pénétration dans l'air, il a fait beaucoup de progrès et il fait de très bons chronos. C'est pas sa spécialité, mais il limite très très bien la casse et aujourd'hui, pas de problème pour pouvoir conserver sa place de 4e au Tour de France.
David Gaudu qui a reconnu d'ailleurs le parcours ce matin, on l'a aperçu, Christophe, entre 11h et midi, il était sur les routes tout comme Romain Bardet, donc voilà, c'est important le matin aussi de quand même reconnaître ce parcours qu'ils avaient déjà reconnu, évidemment les Groupama et FDJ, mais il faut ne rien laisser, même si on a un peu d'avance comme ça le matin même. Certains ont préféré dormir, hein, il nous l'a dit Anthony Turgis, mais pour d'autres c'est quand même important de le faire.
Il est allé aussi reconnaître les inscriptions qu'il y avait sur la route, parce qu'il a désormais un nouveau surnom, David Gaudu, c'est David Grosdur, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous savez que certains coureurs du peloton comme ça ont des surnoms, Jérôme. On a beaucoup parlé du célèbre Alain Philippe aussi, hein, qui n'est pas sur le Tour de France.
Non.
La Fédération Française de la Loose.
C'est ça, et on a ramené Rémi le technicien a volé une pancarte au bord de la route qu'il a affichée dans notre beau camion RMC juste derrière toi. Oui, il y a beaucoup de surnoms, mais alors David Gaudu, bah il est nouveau ce surnom, je le connaissais pas. David Gaudu,
oui,
le connaissais pas, mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les inscriptions sur la route, peut-être ça va le motiver.
Voilà, puis on a aussi Cyril Pinard qui est un compte parodique. Oh, tu me regardes méchamment comme ça. Ça te va bien Cyril Pinard quand même, non? Tu trouves pas?
Non, pas non.
C'est vrai que t'aimes pas ça.
Et est-ce que vous connaissez le surnom de celui qui va être sur la rampe dans un instant et qui s'est imposé hier, Christophe Laporte?
Ah non,
je sèche.
Toi tu sèches?
Ouais.
Tu devrais savoir. Il est surnommé le Grand.
Non.
Ouais.
Oh là là, il vient de piquer ton surnom.
Le plagiat.
Depuis qu'il est chez Cofidis, il est surnommé comme ça.
Bah écoute,
il doit faire à peu près la même taille.
Tu acceptes?
Ouais, j'accepte aisément. Effectivement, je suis flatté parce que voilà, Christophe Laporte est un excellent coureur. Et puis, place aux jeunes. C'est bien aussi que les surnoms survivent à travers d'autres champions. Et je laisse volontiers ma place et mon surnom.
1m89, Christophe Laporte.
Ah, il est plus grand que moi.
Donc ça va, le surnom
respect,
est logique.
Mais ça reste chez les Christophe, alors je lui attribue volontiers le surnom du Grand.
Vaut mieux s'appeler le Grand que le Gros. Hein,
ah bah j'allais venir pour toi.
Ouais, c'est pour ça que j'ai préféré l'amener tranquille.
Chez les Christophe, t'as le choix. Soit c'est le Grand, soit c'est le Gros.
14h36 sur RMC. Cyril Lemoine est avec Kevin Morand. Il vient d'en terminer.
Oui, avec Cyril Lemoine sur RMC. Cyril, comment vous êtes senti sur ce dernier contre-la-montre avant l'arrivée à Paris?
Plutôt quand même pas si mal que ça pour moi, pour ma part, pour mes sensations. Moi j'ai eu du mal un petit peu à me mettre dedans au début, à mettre mon rythme. J'avais un peu les grosses jambes quand même malgré l'échauffement. Et puis bah ouais, on part un peu dans l'inconnu parce que là, étant pas placé, étant très loin en général, on reconnaît pas le parcours et c'est vrai que. Les 10-15 premiers kilomètres, c'est vraiment assez sinueux. Il y a pas mal d'enfilades de virages. Donc, on hésite vraiment à le prendre sur le guidon de contre-la-montre ou pas. Donc, pour ma part, j'ai choisi quand même la sécurité de passer les mains en bas de mon guidon normal, de ne pas avoir d'erreur de trajectoire. Donc, voilà. Et après, on a l'impression que c'est tout le temps faux plat descendant. Mais. C'est toujours un peu des légères cuvettes en faux plat montant, faux plat descendant. Donc vraiment usant comme parcours.
Au 8e tour qui se termine, Cyril, quel regard tu portes sur celui-ci?
Juste un seul mot, déjà dur par rapport à mes autres tours. Comme je disais, il n'y a jamais eu vraiment d'étape de transition. Comme il y a pu avoir sur certains tours auparavant, comme des étapes de plaine, comme il y a pu avoir l'année dernière, l'étape par chez moi de Tours jusqu'à. C'était chez. Vierzon, Château, je ne me rappelle plus. J'y étais pas. J'étais dans mon lit de convalescence, mais c'est des étapes où l'année dernière, on pouvait. Certes, on fait des kilomètres, mais dans le peloton, donc. On pédale quand même, hein. Faut pas croire qu'on est au repos, mais c'est plus tranquille, nerveusement et puis physiquement aussi. Et là, cette année, en fait, dès les premières étapes, ça a commencé fort et en fait, ça s'est jamais arrêté. Donc, ça a été pendant 3 semaines comme ça. Je voyais bien, même je discutais avec des gars que déjà au bout d'une semaine, on avait une impression d'être déjà comme si on était déjà en fin de deuxième semaine, voire début de troisième semaine du tour. Donc, voilà.
Voilà, Cyril Lemoine, le corps de la formation BNB Hotel, qui, comme la plupart des coureurs, parle de ce tour particulièrement difficile. On a l'impression que c'est un peu toujours le leitmotiv. Hein, quand on finit un tour, on trouve toujours qu'il a été difficile. Mais celui-ci, Christophe, plus particulièrement, avec ses grosses chaleurs, avec cette castagne constante tous les jours au départ des étapes, et puis aussi la bagarre pour entrer dans les délais, pour ceux qui ont eu un peu plus de mal. Difficile. Hein. Le Tour de France, c'est pas une partie de plaisir.
Bah oui, c'est vrai que traditionnellement on a toujours des étapes où ça dort un peu, où c'est un petit peu statu quo, ça roule pas. Il n'y a pas eu une étape où ça a été cool. C'est parti toujours au kilomètre zéro. On a parlé d'une heure et quart, d'une heure et demie de castagne tous les jours, compliqué, des gros dénivelés, de la grosse chaleur qui a duré. Et il est clair qu'on va arriver à une moyenne record cette année, je crois, sur toute l'histoire du Tour de France. Il est clair que c'est été un tour extrêmement exigeant. Et on voit aujourd'hui, et depuis quelques jours d'ailleurs, des coureurs très très fatigués. Et on peut le comprendre, effectivement, tout à fait.
14h40 sur RMC. On va faire un petit point quand même sur ce chrono avec un garçon qui est impressionnant. On l'attendait. C'est le favori de Pierre-Yves, Filippo Ganna, le champion du monde italien du contre-la-montre, qui est passé tout à l'heure au point intermédiaire numéro 2 et qui est largement en avance, Pierre-Yves.
Oui, 25-13. L'avance de Filippo Ganna sur Cattaneo était de 13 secondes, 36 secondes sur Bierg, et on l'attend à l'arrivée. Ça, c'était au kilomètre 22. Il était à peu près à la moitié. À arrivé tout à l'heure à Rocamadour à 40 km après 40 km. Bisseger en revanche a eu lui des incidents tout à l'heure. Crevaison Jérôme pour le Suisse.
Crevaison ou problème de dérailleur. On le voyait toucher le réglage de son dérailleur. Vous savez les vélos maintenant ont des dérailleurs électriques et puis vous pouvez les régler en roulant. Je pense que soit un fil s'est déconnecté, soit les vitesses passaient pas. Il a essayé de régler d'abord en roulant avant de décider de changer de vélo et malgré ça au premier temps intermédiaire il est à 29 secondes seulement entre guillemets de Filippo Ganna parce qu'il a bien perdu une bonne vingtaine de secondes sur ce changement de vélo. Donc sans ça il aurait été vraiment dans les temps de Ganna. On va voir s'il arrive à se refaire un petit peu, mais mentalement ça doit être dur pour Bisseger. Rappelez-vous, il est tombé deux fois sur le premier chrono au Danemark, vraiment malchanceux sur son exercice de prédilection.
Alors que vient de s'élancer un grand champion qui dispute son dernier Tour de France, il a 40 ans, il est belge, il se nomme Philippe Gilbert, il vient de partir, c'est son dernier tour hein, Jérôme, voilà.
Ouais, dernier tour, il va arrêter sa carrière à la fin de cette saison 2022. Ouais, quel grand coureur, énorme palmarès hein, il a gagné les trois Ardennaises à la suite, des étapes sur tous les grands tours. Voilà, un très grand coureur et surtout un mec vraiment très très sympa.
Voilà, Paris-Roubaix 2019, le Tour des Flandres, deux fois le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tour, l'Amstel Gold Race à quatre reprises, la Flèche Wallonne, grand coureur de classique. Et puis il a également été sacré champion du monde. Là c'est son dernier tour désormais. Eh bien c'est la retraite qui attend Philippe Gilbert, qui saura sans doute faire autre chose. Filippo Ganna qui passe à l'intermédiaire numéro 3 et là aussi il est très largement en avance.
Oui, ça y est, il a creusé, il est à 1.35, une 10 par rapport à Bjerg, 1.35, on va vérifier, mais en tout cas il a vraiment accéléré. Filippo Ganna, le champion du monde, qui maintenant a en vue Rocamadour, et vraiment cette arrivée très compliquée, 1 km vraiment c'est peut-être là que ça va se jouer. On est vraiment dans la montagne sur cette arrivée, c'est peut-être pour ça qu'il disait Wout van Aert, elle est pour lui cette étape, parce que tout peut jouer dans le dernier kilomètre en fait.
Oui, bien sûr, vous avez déjà des descentes techniques avant les montées et ce dernier grand virage avant la dernière montée qui coupe un peu la vitesse des coureurs. Et là, si vous avez encore un peu d'énergie et un peu de gaz, vous pouvez gagner quelques secondes sur cette dernière montée. On rappelle 1 km 500 à 8% de moyenne hein. Les coureurs qui mettent des développements énormes, ils ont des gros plateaux de 56 voire 58 pour Filippo Ganna, vont certainement devoir mettre le petit plateau dans cette montée pour vous dire à quel point c'est raide. C'est quand même pas tous les jours qu'on met le petit plateau en chrono.
14h43 sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de cette 20e et avant-dernière étape du Tour de France. Filippo Ganna va sans doute pulvériser le meilleur temps dans quelques minutes à l'arrivée ici à Rocamadour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 18h et pour l'avant-dernière fois de ce Tour de France 2022, l'intégral tour avec Cyril Guimard, avec Jérôme Coppel, avec Christophe Moreau, Pierre-Yves Leroux et Arnaud Souk qui se trouve sur la moto, qui est arrêté je crois Arnaud, puisque tu attends Christophe Laporte, hein, celui qui a sauvé le Tour de France des Français justement.
Et on est curieux quand même de la performance de Christophe Laporte sur le contre-la-montre. Souvenez-vous, il y a trois semaines, lors du contre-la-montre à Copenhague, avant de chuter, il était premier à l'intermédiaire, donc sur un contre-la-montre certes très plat et de 13 km. Mais n'oublions pas que Christophe Laporte a quand même des références tout à fait intéressantes en contre-la-montre. Donc je me dis que ça peut être une bonne occasion de le suivre, surtout que sa forme a l'air donc ascendante en cette fin de Tour de France.
Et puis, il faut le savoir aussi Jérôme, les coureurs de la formation Jumbo vont donner des indications pour leurs deux leaders, à savoir Wout van Aert et Jonas Vingegaard, qui font partie des favoris de cette épreuve aujourd'hui.
Oui, bien sûr, c'est toujours important pour les coéquipiers qui partent tôt de faire le chrono à bloc, comme tu l'as dit, pour donner des temps intermédiaires. Alors là, que ça soit pour Wout van Aert pour la victoire d'étape ou Vingegaard pour son maillot jaune. On a les temps intermédiaires de la course, tous les 10 km à peu près, mais les équipes, elles font des temps intermédiaires beaucoup plus réguliers. Ça permet d'aiguiller les coureurs. Allez, je sais pas, tous les 2 ou 3 km, ils vont faire des intermédiaires pour voir si leur favori. Donc Wout van Aert et Vingegaard sont bien dans l'allure.
Très bien, Filippo Ganna qui va terminer dans quelques kilomètres. Il est passé sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Cyril, un petit mot sur l'allure impressionnante de Filippo Ganna, qui est vraiment un coureur parfait pour le contre-la-montre.
Il est parfaitement positionné. N'oublions pas qu'il vient aussi d'une discipline qui est la poursuite sur piste, poursuite individuelle et poursuite par équipe, et que sur la piste, ça oblige à affiner le coup de pédale, ça oblige à être très très fluide. Il a acquis
donc aujourd'hui tous les automatismes qui font qu'on a le moins de déperdition dans la gestuelle.
Mm-hmm. Philippe Ogana qui en a terminé je crois avec la montée, qui va donc descendre désormais jusqu'à Rocamadour. Il y a quand même une petite descente bien sinueuse, hein, Pierre-Yves, notamment un dernier virage à gauche quand on arrive au fond de la vallée.
Oui, c'est ça, c'est l'occasion de peut-être se récupérer un petit peu des efforts fournis avant la dernière montée et les derniers efforts. Il lui reste 4 km à Philippe Ogana à parcourir. Il va pouvoir maintenant descendre. Là, ça va commencer pour lui. Ça va être légèrement sinueux. On va aller très très vite, mais il faudra gérer le dernier virage à gauche avant la remontée en tournant à droite.
Très bien. Et puis Stéphane Bisseger, on rappelle le Suisse qui a été victime d'un petit incident mécanique tout à l'heure, mais qui a quand même continué son effort. Christophe, quand on est victime comme ça d'un incident, on sait que ça joue souvent à pas grand chose, un chrono, ça aurait pu le démoraliser, mais il continue de poursuivre son effort à fond la caisse.
Ah oui, bien sûr, il a repris ses esprits et il s'est reconcentré avec une nouvelle machine. Néanmoins, c'est toujours perturbant quand on est dans son élément, qu'on est en train de faire un bon temps, qu'on a de bonnes sensations, de devoir s'arrêter, de relancer la machine. Il est vrai qu'on peut estimer ce temps perdu de entre 20 et 30 secondes. Ah oui. Et surtout de penser qu'il faut se reconcentrer et se remettre à l'ouvrage pour pouvoir faire un très très bon final.
Et au point intermédiaire numéro 2, il est quand même passé avec 54 secondes de retard sur Ganna, hein. C'est énorme, il ne les rattrapera pas.
Non, malheureusement c'est fini pour Bisseger, mais je pense quand il a eu son problème mécanique ou de dérailleur électrique, on aura la confirmation après, il savait que son chrono était terminé. Quand vous jouez contre Philippe Ogana, vous de Van Aert, ça va jouer à quelques secondes. Si vous avez un problème, c'est terminé bien sûr.
Voilà, Philippe Ogana dans la descente avec cette longue enfilade de virages, dernier virage à gauche dans quelques instants pour Philippe Ogana qui est toujours bien profilé dans cette descente, Pierre-Yves.
Oui, et il aperçoit sur la gauche Rocamadour, magnifique cité, la montée de l'Hospitalet dans quelques instants pour lui. On ne connaît pas dans le Tour de France cette montée de Rocamadour. En revanche, sur le Tour d'Occitanie, elle a été déjà pratiquée avec une victoire de Benoît Cosnefroy ici, mais ça ferait une belle arrivée de Tour de France. Malheureusement, c'est pas très très large, mais ça serait magnifique. Ouh, voilà le petit pont, le virage à négocier. Ça n'a pas été évident, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, et voilà, c'est parti pour Philippe Ogana. Maintenant il lui reste 1,8 km de montée.
1,8 km, quand on est comme ça après une descente, il faut bien pouvoir se relancer et aller chercher cette victoire d'étape pour Ogana, qui est l'un des grands favoris. Cyril, comment on arrive à passer de cette descente à cette grande montée finale?
Les coureurs sont quand même un petit peu entraînés, surtout des coureurs comme Ogana, donc la gestion de la descente ils la font un petit peu en dessous. Ils n'ont pas d'ailleurs tellement le loisir de faire autrement, puisqu'il y a de tels virages qui sont obligés d'être en récup entre guillemets. Et n'oublions pas que ce kilomètre 5 est quand même à 7,8%. C'est pas l'exercice favori de Ganna.
Ah non, ça a été compliqué. J'ai failli pousser la voiture de Christophe, moi, tellement c'était compliqué de monter.
Non, mais ça, on ne voulait pas le dire à l'antenne.
Et surtout descendu en route, t'as pas voulu m'accompagner jusqu'au parking.
Jérôme, petit plateau ou grand plateau pour Ganna?
Petit plateau, hein. Alors un petit plateau qui est très gros, hein. Ça doit être au moins à 46, donc il est passé d'un gros plateau de 58 à un petit plateau de 44.
44, ouais,
c'est ouais, 44 ça, ouais. Ou 46, donc ça reste quand même des très gros plateaux. Mais comme a dit Cyril, hein, quand vous avez une pente à quasiment 8% en fin de chrono comme ça de 40 km, bien sûr vous mettez le petit plateau et vous cherchez à avoir la ligne de chaîne la plus droite possible, donc d'éviter de croiser la chaîne pour avoir le meilleur roulement possible.
On se souvient du dernier chrono à la planche des Belles-Filles il y a 2 ans, ça montait beaucoup plus qu'aujourd'hui quand même, mais là c'est quand même difficile pour les rouleurs, pour les purs spécialistes. Christophe?
Ouais, mais on peut pas comparer la planche des Belles-Filles avec cette dernière ascension des kilomètres 8. La planche des Belles-Filles, c'est du 16-18%, petit plateau sur 6 km quasiment. Donc là, on ne peut pas comparer l'effort. Mais ceci dit, on peut perdre un petit peu de temps dans cette dernière montée, même si c'est un dernier coup de rein qu'on peut encore gérer dans les meilleures conditions. Mais ceci dit, il ne faut pas se désunir pour garder le meilleur temps jusqu'en haut des faubourgs de Rocamadour.
Mais pour Ganna, c'est une ascension qui va quand même le pénaliser. Parce qu'il a son poids, et le poids, il faut le monter. Et par rapport, on va dire, à un Vingegaard ou un Pogacar au top niveau, sur une montée comme ça, il peut perdre 15 à 20 secondes.
Ouais, oui. Philippe Ogana qui est dans le dernier kilomètre de ce chrono de 40 km 700, donc à l'arrivée à la côte de l'Hospitalet, en haut de Rocamadour, Pierre-Yves.
Oui, et ça bouchonne légèrement dans cette montée avec un coureur de l'équipe DSM qui doit être devant, peut-être Dainese, qui va être rattrapé
par Ghana dans un instant. Les voitures se garent, il l'aperçoit une vingtaine de mètres devant lui. Ça, c'est une bonne indication, Jérôme, toujours d'avoir quelqu'un en point de mire.
Oui, alors ça vous aide toujours dans le final. Alors après, une bonne indication pour son temps, non, parce qu'on voit que Dainese, il le fait pas du tout à bloc. Mais par contre, quand vous apercevez les voitures au loin, bien sûr, ça vous motive, vous voulez aller chercher le coureur avant la ligne d'arrivée. On sent que c'est difficile, hein. Il se met en danseuse, on n'a pas l'habitude de le voir souvent en danseuse, Ghana, c'est pour vous dire comme la pente est raide. Et voilà, il lui reste quoi, 500 mètres, il est long ce dernier kilomètre, il est très très long, on va voir en combien de temps il l'a fait, ça nous donnera des indications pour vous de Van Aert notamment.
Ghana qui était quatrième à Copenhague, qui n'avait pas réussi à aller chercher la victoire, on le rappelle, c'est Yves Lampaert qui s'était imposé devant Wout Van Aert. Dernier petit tunnel pour Filippo Ganna qui va pouvoir dans quelques instants apercevoir la ligne d'arrivée ici à Rocamadour. Il lui reste 400 mètres à parcourir, des drapeaux, des supporters pour l'encourager, le champion du monde du chrono qui évidemment aimerait bien aller chercher une victoire sur ce Tour de France et une victoire pour les Italiens. Les Français ont été récompensés, pas les Italiens pour le moment. Ça va peut-être être le cas dans quelques minutes maintenant parce qu'il faudra évidemment attendre l'arrivée de tous les coureurs. Filippo Ganna qui possède 2 minutes d'avance virtuelle sur Bjerg, mais ce n'est pas lui son principal concurrent. Encore 100 mètres pour Filippo Ganna, dernier virage à droite, Rocamadour est devant lui, la ligne d'arrivée. Il est à fond maintenant en position de sprinter ou surtout le plus profilé possible. Il passe la ligne en 48 minutes 41 secondes et 10 centièmes.
Voilà, chrono de référence, premier chrono de référence sur cette 20e étape du Tour de France. Il a tout donné, le champion du monde du contre-la-montre, lui qui, rappelez-vous, en 2020 sur le Giro avait dégoûté tous ses adversaires dans les exercices chronométrés puisqu'il avait tout simplement remporté 4 étapes dont 3 contre-la-montre, et puis en 2021 là aussi 2 victoires en contre-la-montre, et le maillot rose l'avait accompagné pendant quelques jours. Filippo Ganna, donc le champion du monde italien de la spécialité, c'est un bon chrono de référence. Selon vous, sera-t-il battu, Jérôme?
Alors c'est un très bon temps bien sûr, je pense qu'il sera battu personnellement, je pense, par un coureur comme Wout Van Aert. J'ai quand même l'impression que le final le convient mieux à Van Aert qu'à Ganna avec ses descentes hyper techniques. On sait que c'est un funambule, Wout Van Aert, qui vire très bien même avec son vélo de chrono, et on connaît son punch dans les arrivées difficiles, un dernier kilomètre comme ça, un kilomètre 500 difficile, ça lui convient parfaitement.
Ok, Christophe, il sera battu ce temps?
C'est vrai que les 15-20 secondes sont prépondérants vraiment dans ce final. Il est possible que Ghana se soit un petit peu écrasé, ce type Wout Van Aert, dans l'exercice de la relance, du côté sinueux. Et c'est vraiment sur un terrain extrêmement adapté pour son profil. Et je pense qu'il pourrait être battu, mais seulement que par lui, parce que franchement, des prétendants derrière, il n'y en a pas 50 000. Hein.
On verra aussi ce que va faire Jonas Vingegaard quand même.
Oui,
maillot jaune.
Ou Pogacar.
Ou Pogacar également. On va voir s'il n'a pas tout débranché dans la tête. Je sais que Cyril pense que Pogacar ne fera pas grand chose dans ce chrono. On verra ça dans un instant puisqu'on va parier. On va laisser passer les infos de 15h et on revient pour les paris RMC. Filippo Ganna, donc pour l'instant meilleur temps de cette 20e étape du Tour de France. Le temps, tu le rappelles, Pierre-Yves?
48-41.
Allez, 14h55, on revient dans quelques instants pour la suite de l'intégrale Tour de France.
RMC, intégrale Tour.